Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le dialogue et la réconciliation nationale, seule voie pour favoriser l'unité et le développement en Côte d'Ivoire. Benoît XVI recevait ce vendredi au Vatican le président ivoirien Alassane Ouattara. Une visite suivie de très près par la presse locale. Éclairage dès le début de cette édition. Le pape invite les jeunes à partir en mission, notamment via Internet et les voyages. Benoît XVI, dans son message pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse, qui se tiendront en juillet à Rio de Janeiro, évoque l'accueil que le Christ réserve à tous. Dans ce magazine, nous nous attarderons également sur un thème qui fait débat en France, le mariage pour tous. Les opposants à ce projet de loi ont une nouvelle fois appelé à la mobilisation ce samedi. Vous entendrez Mgr Vincent Jordi, évêque de Saint-Claude dans le Jura, actuellement en visite ad limina au Vatican, ainsi que Philippe Arino, homosexuel catholique. Gros plan également sur un lieu d'évangélisation particulier, l'hôpital. Il était au centre de la conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Bienvenue dans ce magazine. Le président ivoirien était en visite officielle au Vatican ce vendredi, une première depuis son arrivée au pouvoir au printemps 2011. Alassane Ouattara a été reçu en audience privée par Benoît XVI. L'entretien d'une vingtaine de minutes en français s'est déroulé dans la bibliothèque du Palais apostolique. Le chef d'État ivoirien a également rencontré le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone ainsi que le secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Dans un communiqué, la salle de presse du Saint-Siège précise que ces entretiens ont notamment porté sur la contribution que peut offrir l'Église au bien du pays tout entier, en encourageant à la paix et en promouvant le respect des droits humains, le dialogue et la réconciliation nationale, seule voie pour favoriser l'unité et le développement. L'occasion également de souligner la cordialité des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire et de saluer la collaboration fructueuse entre l'Église et les en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation. Les deux parties ont dit souhaiter une rapide conclusion de négociations en vue d'un accord bilatéral. Les entretiens ont par ailleurs permis de passer en revue certains défis régionaux actuellement suivis par le chef de l'État ivoirien en tant que président de la Communauté économique des pays d'Afrique occidentale. La presse ivoirienne a accordé une large place à cette visite d'Alassane Ouattara au Vatican. Fraternité Matin, premier quotidien ivoirien d'information générale, donne notamment la parole à son ancien directeur, Léon Francis Lébry, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure d'Abidjan, auteur d'un ouvrage intitulé « La Côte d'Ivoire et le Vatican, 40 ans d'amitié fraternelle ». Ce livre a été présenté le 9 novembre dernier à Abidjan, en présence du nonce apostolique et de plusieurs personnalités politiques et religieuses. Romilda Ferrotto.
Journaliste et chercheur, Léon Francis Lébry n'a pas de doute. Cette visite aura des retombées importantes, avant tout pour la Côte d'Ivoire. Son double statut permet au pape de donner des conseils et de faire des suggestions au chef d'État. Or, Alassane Ouattara en a bien besoin pour apaiser le climat social et favoriser la reconstruction. Pendant la crise post-électorale, le Saint-Siège s'était efforcé de faire comprendre que le conflit n'était pas interreligieux. Il avait tenté, sans succès, d'envoyer un émissaire à Abidjan. En venant au Vatican, le président ivoirien s'inscrit dans la tradition de ses prédécesseurs. Ce rendez-vous, Alassane Ouattara l'avait sollicité il y a un an, peu après son accession à la tête du pays, car il connaît le poids et la place du Vatican dans le monde et souhaite lui donner des gages de réconciliation. Cela fait 40 ans que la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège entretiennent des relations diplomatiques renforcées par Jean-Paul II et Félix Houphouët-Boigny, qui s'étaient rencontrés à plusieurs reprises. Pourtant, si la visite au Vatican d'Alassane Ouattara est un événement diplomatique majeur, elle ne fait pas que des heureux. Les violences post-électorales ont laissé des blessures et des divisions profondes en Côte d'Ivoire. La situation des pro-Gbagbo détenus sans jugement entretient les ressentiments. Les ONG dénoncent régulièrement la répression et les dérives autoritaires. Dans les rangs catholiques, certains accusent ouvertement les évêques de s'être résignés au silence pour assurer leur survie. 19 mois après le changement de régime, la réconciliation tarde à s'installer. Tandis que l'insécurité persiste.
La visite au Vatican d'Alassane Ouattara, musulman du nord du pays, intervenait 2 jours après la dissolution du gouvernement du Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, officiellement suite à des dissensions au sein de la majorité. La Côte d'Ivoire, vous l'avez entendu, profondément meurtrie par la crise politico-militaire de décembre 2010-avril 2011, qui a fait plus de 3000 morts, est encore très fragile d'un point de vue politique. L'ancien président Gbagbo est toujours détenu en détention à La Haye et la population reste divisée entre le parti au pouvoir et les partisans de l'ancien chef de l'État. La situation est particulièrement préoccupante dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les combats entre le M23, la rébellion du mouvement du 23 mars et l'armée congolaise ont repris jeudi dernier près de Goma, après une trêve de 3 mois. Les affrontements ont fait plus de 100 morts dans les rangs rebelles et quelques blessés parmi les forces de l'armée régulière. Plusieurs camps de réfugiés ceinturent la ville de Goma. Face à ces dernières attaques, les Congolais sont nombreux à avoir pris le chemin de l'exode. XVI appelle les jeunes à se faire missionnaires du monde. Son message pour les prochaines JMJ qui se tiendront à Rio de Janeiro, au Brésil, du 23 au 28 juillet prochain, a été publié ce vendredi. Une importance toute particulière sera accordée à la dimension missionnaire, solidaire et interculturelle de ces journées autour du thème retenu par le pape « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Dès les premières lignes, Benoît XVI prend pour symbole de ce prochain rendez-vous des jeunes, la célèbre statue du Christ Rédempteur qui surplombe la ville de Rio. Ses bras ouverts sont le signe de l'accueil que le Christ réserve à tous ceux qui viennent à lui. Son cœur représente l'immense amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Compte rendu de ce message très attendu par les jeunes avec Bernard de Cotigny.
Pourquoi publier un message avec 8 mois d'avance sur l'événement? Eh bien, tout simplement pour le méditer et se préparer sérieusement pour cette rencontre dont le thème de « Toutes les nations faites des disciples » représente un véritable appel missionnaire. Et qui mieux que les jeunes peuvent se faire missionnaires auprès des autres jeunes? Dans cette époque de progrès technologique inégalé, écrit le pape, la mondialisation des échanges ne fera grandir le monde en humanité que si elle est fondée non pas sur le matérialisme, mais sur l'amour. Dieu est amour, et voilà pourquoi il est urgent de témoigner de l'existence de Dieu, afin que chacun puisse en vivre. Cet appel missionnaire, poursuit Benoît XVI, est adressé aux jeunes pour une autre raison. Ils en ont besoin pour leur propre cheminement personnel de foi, car la mission représente une dimension essentielle de la foi. L'annonce à toutes les nations explique encore le pape, car Dieu veut que tous soient sauvés. Et il signale 2 domaines où l'engagement des jeunes est particulièrement requis, le monde des communications sociales, en particulier le monde d'Internet, en évitant bien sûr ses pièges, le risque de dépendance, le danger de confondre le réel et le virtuel, de substituer la rencontre et le dialogue direct par des seuls contacts sur le web. L'autre domaine est celui des voyages, soit pour les études, soit pour le travail ou les loisirs, les jeunes voyagent, c'est un fait et c'est un champ de mission infinie. Faites des disciples, et le pape dit savoir combien il est parfois difficile de faire faire à nos amis une expérience de foi, il recommande alors la proximité et tout simplement le témoignage, c'est par là que Dieu touche les cœurs. Dernière recommandation aux jeunes, affermir leur mission d'évangélisation par la prière et les sacrements. L'Eucharistie et le sacrement de réconciliation ne peuvent être négligés. Le pape en est bien conscient, la parole de Dieu suscite des fermetures ou des oppositions. Dans certaines régions du monde, des jeunes chrétiens souffrent de ne pouvoir témoigner de leur foi. Il n'y a pas de liberté religieuse. Oui, il faudra faire preuve de persévérance et de courage. Les jeunes sont avertis. Annoncer l'évangile n'est pas toujours une partie de plaisir.
Bernard de Cotigny, un message que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le pape a reçu ce vendredi plusieurs évêques français actuellement en visite ad limina au Vatican. Les 39 évêques des provinces du quart nord-est de la France ont entamé leur pèlerinage à Rome le 12 novembre dernier. Ils rencontrent Benoît XVI, mais aussi les différents dicastères de la curie romaine. Des entretiens au cours desquels différents thèmes religieux mais aussi de société sont abordés. Et il en est un qui mobilise la société française et fait débat depuis plusieurs semaines, le mariage pour tous. Les évêques français n'ont cessé depuis l'été dernier d'informer l'ensemble des fidèles et d'alerter la société sur ce projet de loi qui doit être examiné à l'Assemblée en janvier prochain. D'abord via la prière du 15 août, puis par des prises de position publiques de l'épiscopat, comme le discours d'ouverture de l'Assemblée d'automne de la Conférence des évêques de France du cardinal André XXIII, qui a obtenu un écho médiatique important. Malgré cela, les organisations catholiques avancent en ordre dispersé, donnant ainsi l'impression que l'épiscopat ne s'est pas assez impliqué, ce que réfute catégoriquement Mgr Vincent Jordi, évêque de Saint-Claude dans le Jura, actuellement en visite ad limina au Vatican.
Les évêques n'ont pas rien fait. Pratiquement 70 évêques, voire plus, ont fait des déclarations sur cette loi dite du mariage pour tous, en disant leur désaccord et le pourquoi du désaccord, en demandant un débat plus large, en demandant de prendre en compte quand même l'ensemble de la problématique que signifie cette loi ou qu'elle pose cette loi. Et donc, d'une certaine manière, ce que le cardinal 23 et nous, les évêques, avons dit, c'est nous avons fait, nous, ce que nous avions déjà à faire. Nous avons éclairé, nous sommes pasteurs, nous avons à éclairer, à aider à la réflexion, nous avons invité à la prière. L'Église, ça n'est pas que les évêques. L'Église, ça n'est pas que les prêtres. L'Église, ça n'est pas que les diacres permanents. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés catholiques qui se reconnaissent dans la foi qu'ils proclament et une foi qui est une foi agissante. Et donc, nous sommes dans l'année de Diaconia 2013. Diaconia, c'est la diaconie, le service des plus faibles, des plus pauvres. Réveiller la société sur des questions aussi importantes, ça fait partie, à mon avis, aussi de la diaconie, du service des personnes. Donc, il y a la possibilité de manifester, il y a la possibilité d'écrire aux élus, il y a la possibilité d'écrire dans la presse. Il y a une opinion publique catholique qui doit aussi se manifester.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Et puis, à noter ces déclarations de certains évêque français suite à un courrier envoyé en septembre dernier par l'Institut Civitas à certains évêques de France concernant le projet de loi sur le mariage entre personnes de même sexe. Découvrant leur présence sur le site de l'Institut, les évêques concernés ont jugé la récupération dont ils ont été l'objet inacceptable. Ils demandent que le courrier soit retiré du site de Civitas et que leur nom ne soit pas instrumentalisé au profit d'une manifestation dimanche prochain qu'ils ne soutiennent pas. Les opposants au mariage pour tous se mobilisent de nouveau dans les principales villes de France ce samedi. Plusieurs collectifs et associations entendent peser dans ce débat houleux, notamment en sensibilisant les élus. L'appel a visiblement été entendu. La mobilisation en vue de cette manifestation, en particulier via les réseaux sociaux, ne faiblit pas. Et l'initiative a reçu le soutien de nombreuses associations et paroisses catholiques. La question, vous l'aurez compris, est particulièrement sensible. Des voix s'élèvent, y compris parmi les homosexuels, pour dénoncer les motivations avancées par les défenseurs de ce projet législatif. Philippe Arinaud, professeur d'espagnol, essayiste, homosexuel catholique, est l'une de ces voix. Interrogé par Manuela Effigy, il nous explique les raisons de son opposition au mariage pour tous.
C'est une loi qui me semble homophobe, c'est-à-dire contre les personnes homosexuelles. D'une part parce que on veut donner par cette loi le mariage alors qu'on n'y croit plus et qu'il n'a plus de sens pour notre société. Donc ça c'est une première chose. Et puis aussi, on demande au couple homosexuel de singer le couple femme-homme plus enfant. Donc en fait, on ne respecte pas les personnes homosexuelles, leur réalité de couple. On ne les regarde pas elles, on leur demande vraiment de copier un modèle de couple et de famille que leur corps ce RPS et leur amour ne peuvent pas porter. Le deuxième argument, c'est celui aussi de dire que les personnes homosexuelles ne veulent pas du mariage. Déjà, moi, celles que je connais, elles ne veulent pas se marier. Et les couples les plus solides de mon entourage, ce sont précisément ceux qui ne veulent pas du mariage, qui ont compris les limites objectives du couple homosexuel et qui ne demandent pas le mariage. Donc on est très très peu nombreux, il n'y a que ceux qui rentrent dans un rôle de militant. Et donc on ne veut pas de la réalité du mariage, mais on veut du droit au mariage. Soit pour avoir le droit de le refuser, donc il y a quand même un paradoxe. On demande le droit au mariage aussi pour les autres, mais surtout pas pour soi. Et puis aussi on demande le droit au mariage parce que en fait on veut pas du mariage, mais on veut le mariage en tant que symbole de l'évolution des droits LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Donc c'est dans une optique symbolique, mais c'est pas tellement le mariage, mais plutôt un droit supplémentaire pour la reconnaissance des droits des homos, pour l'égalité. Pour ces trois raisons-là, je crois qu'il faut vraiment défiler déjà pour les personnes homosexuelles et non pas contre elles, parce qu'on voit qu'elles sont utilisées dans cette affaire. Ce sont les marionnettes d'une société qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus au mariage, qui ne croit plus en la réalité du mariage. Et donc, ben, sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous de cette loi. Tout le monde pense que parce qu'on nous offre ce cadeau-là, nous on l'a réclamé, qu'on est des destructeurs de la famille, de l'enfant, qu'on va dénaturer le mariage, alors qu'en fait, ben, c'est pas parce qu'on reçoit ce cadeau-là qu'on le veut, qu'on l'a demandé. Il y a des retours de bâton homophobes qui s'annoncent à travers cette loi qui nous est donnée arbitrairement par une société bisexuelle qui veut notre bien sans le faire.
Un argument des défenseurs du mariage pour tous, c'est que donc ce fameux mariage pour tous mettrait fin aux discriminations envers les personnes homosexuelles. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Les vraies discriminations, ce n'est pas le fait qu'on nous refuse toutes nos gourmandises et qu'on nous frustre sur tous nos désirs, y compris les désirs les plus déréalisés. Les vraies discriminations, c'est qu'on ne nous reconnaisse pas en tant que personne dans notre spécificité de personne, de couple. Ça, c'est une vraie discrimination, l'ignorance, l'indifférence. Et puis après aussi, le déni des souffrances que l'on vit. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans le désir homosexuel et vécu par les personnes homosexuelles. Une difficulté aussi à trouver l'amour et à le vivre sur la durée, dans la joie. Et ça, c'est une vraie discrimination, oui. Refuser le mariage aux personnes homosexuelles parce qu'on les reconnaît en tant que personnes, ce n'est pas homophobe. C'est au contraire même nous reconnaître et reconnaître ce que l'on vit.
La manifestation de ce samedi, qui se veut pacifique, pluraliste et non partisane, débutera à 14h30. 15 villes sont concernées, parmi lesquelles Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux ou encore Nantes et Rennes. La 27e conférence des opérateurs de santé, promue par le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, refermera ses portes ce samedi. La rencontre sur le thème « L'hôpital, lieu d'évangélisation, mission humaine et spirituelle » a permis à plus de 600 participants venus du monde entier de partager des expériences auprès de personnes souffrantes, en particulier en milieu hospitalier. Au centre des interventions, l'hôpital, son rôle, sa mission, sa nature même de carrefour des peuples, des préoccupations et des attentes. Écoutez le père Pierre-Jean Welch, assistant ecclésiastique de la Fédération internationale des pharmaciens catholiques.
C'est un carrefour aussi bien à l'intérieur de l'hôpital, parce que donc là on voit que des gens de toutes conditions, de tout âge, de toute conviction aussi, qui se croisent, etc., même dans, je dirais, les opérateurs de santé. Mais on constate aussi que c'est un carrefour par rapport aux conditions d'exercice, de l'existence finalement de ces hôpitaux. Et donc l'avancée médicale est très importante, comme on le sait. La technologie s'est perfectionnée et continue à le faire. Mais on voit aussi que il y a l'aspect financier qui commence aussi à poser de plus en plus questions. Et donc voilà. Et il y a des déplacements à d'autres niveaux aussi. Des choses dont on avait parlé déjà il y a quelques décennies, maintenant reviennent clairement à la surface. On se rend compte que ce n'est pas suffisant d'offrir à un malade le résultat d'une technique, d'un protocole, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous disponibilisez un médicament tout à fait adéquat et tout à une personne, mais si cette personne ne veut pas guérir, même ce médicament ne pourra rien pour elle. Et c'est très heureux que quelqu'un ait rappelé une maxime, le malade est le maître. Et donc c'est vrai, c'est lui qui concentre et qui décide finalement la mobilisation intérieure. Et donc tous ceux qui sont autour de lui, à commencer par sa famille. Donc il est très important que l'hôpital permette à la famille d'être présente aussi. Leur présence a été tout à fait essentielle. Et alors c'est là qu'on prend mieux en compte, mais pas seulement chez les chrétiens, que la guérison est une aventure spirituelle aussi.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. C'est la fin de ce magazine. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.